Bienvenue à cette nouvelle édition du balado du mot à la lettre. Pour cet épisode, nous nous déplaçons au 17e siècle, dans le monde du théâtre. Notre invité est un dramaturge célèbre, se passant de toute présentation, mais néanmoins, voici un peu de contexte. Pierre Corneille, Corneille le Grand, est né en 1606 dans une famille bourgeoise. Il fut formé par les jésuites qui l'initièrent au théâtre. Il devint avocat, comme son papa. Mais on le dit peu éloquent, ce n'est pas un milieu qu'il stimule. Rapidement, le roi Louis XIII demeure son seul client. Il éprouve une déconvenue amoureuse et se tourne vers l'écriture. Ce sera Mélite, une pastorale en ville. Il met en scène des jeunes gens de bonne famille à la place des bergers, leur fait vivre des sentiments nobles. C'est la bonne société qui se regarde vivre sur la scène. La pièce connaît un certain succès, suffisant pour encourager notre homme à poursuivre sur sa lancée. Il écrit plusieurs autres pièces, des comédies où l'amour occupe une place importante et devient un protégé du cardinal de Richelieu. Mais le vent tourne, et désormais, les tragédies deviennent les chouchous des spectateurs. Il s'y met aussi, et c'est Médée qui verra le jour. Tout de suite après, il enchaîne avec l'œuvre dont je veux vous parler aujourd'hui, la tragicomédie « L'illusion comique », produite en 1635, juste avant d'écrire le Cid, cette véritable consécration de son talent. Je crois que M. Corneille est prêt pour nos questions. Vous excuserez sa voix troublée. 350 années de tombeau lui ont laissé quelques chats dans la gorge et probablement aussi quelques araignées.
Mais bonjour, gens du 21e siècle. Vous semblez tout pareil aux citoyens de mon siècle passé. C'est fascinant. Je vois que ma voix vous étonne. Quelques gargarismes ont eu raison de mes petits problèmes d'élocution. Nous pourrons discuter toute la journée, si vous le désirez.
Nous avons une grande chance de vous voir avec nous aujourd'hui, cher Sieur Corneille. Après plus de 300 ans de trépas, comment vivez-vous ces moments volés au temps? Que pensez-vous des changements survenus depuis votre passage sur Terre?
Ah, je vous prie de m'appeler Pierre. Pour répondre à votre question, je dirais que c'est du pareil au même. Rien n'a réellement changé, au contraire. Tout se répète sur le même air que naguère, dans la grande boîte à surprises prévisible qu'est la vie.
Monsieur Corneille, pardon, Pierre, parlons donc tout de suite du sujet qui préoccupe nos auditeurs et moi-même. Cette galanterie extravagante, cet étrange monstre, comme vous la décrivez vous-même, cette illusion comique. Vous avez donc 29 ans, avez écrit déjà quelques comédies, votre réputation est faite, mais cette pièce détonne par son propos, son mélange des genres, cette hybridation tragicomique. Quelle en fut donc l'inspiration?
C'est un peu autobiographique. Mon père voulait me voir marcher sur ses traces. Mais j'ai choisi une autre route, et il n'en était pas très fier. Le théâtre avait encore mauvaise réputation. J'ai voulu lui démontrer, en le mettant dans le rôle de prix d'amant à la recherche de son fils, ce fils perdu de vue à cause de sa trop grande sévérité et d'attentes impossibles à remplir, que le théâtre avait du bon, que ce métier méritait le respect, autant que celui d'avocat, qu'il ne s'agissait aucunement d'un caprice ou d'un goût étrange pour l'infamie, mais bien de l'unique manière possible de me réaliser. Et surtout que la richesse et l'honneur s'y trouvaient aussi, puisque payés par le roi. Mon père n'avait donc pas à se sentir embarrassé par ma carrière hors des sentiers battus par ma famille bourgeoise.
D'accord pour la partie leçon au paternel, mais encore, il y a sûrement autre chose.
L'illusion comique, c'est un peu le lieu de métamorphose de mon œuvre. De mes débuts passés à créer des comédies, j'ai évolué et touché à tous les genres connus, de la commedia dell'arte à la pastorale et à la tragédie. La pièce suit aussi ce parcours, l'époque me permettant encore une liberté totale dans mes choix. On y trouve la pastorale avec ce magicien et sa bucolique grotte, le matamor en bouffon comique, fanfaron grand parleur, digne représentant de la farce. Mais il est tout de même un héros total dans le sens épique du terme, et finalement, la trahison dans tout ce qu'elle a de tragique. J'ai voulu ainsi que le spectateur ressente une cascade d'émotions, qu'il soit ému, surpris, amusé, transporté entre l'illusion et le réel, tout en abordant l'idée que la vie est une forme de théâtre où chacun joue son rôle. Et c'est ça, le théâtre cornélien. J'ai placé mon théâtre dans le théâtre, et c'est ce théâtre même qui est la vie se regardant jouer. Il s'agit d'une mise en abîme double, car oui, c'est un concentré de mon œuvre, mais c'est aussi cette scène où le spectateur se regarde regarder les acteurs et se place lui-même dans un rôle d'importance. Car à quoi sert le théâtre sans le public ? J'ai voulu que les spectateurs réalisent qu'ils assistaient à une représentation, leur révéler que tout n'est qu'illusion. Le théâtre comme miroir de la vie, oui, nous ne voyons qu'une apparence d'émotion, le reflet des passions. Nous pouvons penser que c'est aussi le cas de la vie. L'illusion comique, c'est le théâtre qui dévoile ses ficelles. C'est une réflexion partagée avec le public sur l'essence même du théâtre, se faire semblant, sur l'illusion qui enchante.
Et c'est ici que nous parlons du Théâtre Mundi, ce grand théâtre du monde dans lequel nous jouons tous notre rôle.
Il y a très longtemps que cette notion de théâtre du monde existe, des centaines d'années avant ma naissance. Cette idée remonte à la caverne de Platon, à Épictète et sa théorie de la destinée, à l'évêque de Salisbury, qui voit la vie comme une comédie, et bien entendu, au grand maître du théâtre lui-même, Shakespeare, trouvant maintes fois à mettre de l'avant cette idée, par exemple dans la pièce « Comme il vous plaira », où il écrit que « le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Donc oui, la vie comme un théâtre est le théâtre qui donne à voir l'illusion de cette vie. Mais on peut aussi demander ce qu'est l'illusion. Les acteurs sur scène sont-ils illusoires ? Non, ils sont réels, tout comme les spectateurs. Les deux groupes vivent réellement cette rencontre, et c'est ce qui est magnifiquement magique.
Je résume la pièce rapidement. Prudemment, un père autoritaire recherche son fils Clindor, qui a quitté la maison à cause, justement, des agissements du père. Ça fait un bon moment qu'il n'en a pas de nouvelles. Le père rencontre le magicien Alcandre, qui l'amène dans sa grotte et qui lui fait voir la vie pleine de péripéties de Clindor. Le tout se termine sur la révélation que tout ça n'était que fiction. Un magnifique travail d'acteur. Quel sens donner à cette recherche?
Prudemment. C'est, comme on l'a dit, la figure du père. Mais il représente aussi le spectateur, celui qui cherche des réponses. Sa quête de sens passe par les illusions d'Alcandre le magicien, tout comme celle du public, qui, elle, passe par la mise en scène, cette autre réalité. Clindor représente les désirs, le besoin de s'adapter, de devenir autre pour arriver là où nous le voulons. Tout comme nous, il est acteur de sa vie et fait tout en son pouvoir pour atteindre ses rêves.
C'est donc là l'idée de théâtre dans le théâtre. La pièce se lit donc à des niveaux multiples.
Oui, absolument. Il y a la pièce elle-même, telle qu'on la voit au premier degré, puis les spectateurs que deviennent Alcandre et Prudemment, regardant les aventures de Clindor. Ensuite, il y a les aventures de Clindor elle-même, et finalement la tragédie de la prétendue mort de Clindor et la révélation finale du jeu par la didascalie qui apparaît à l'acte 5. On tire le rideau et on voit tous les comédiens qui partagent leur argent.
Vous avez eu au moins la décence d'avertir les spectateurs de votre tour de magie, de les aviser de cette illusion dans votre œuvre. On ne peut pas en dire autant de nos jours alors que la venue de l'intelligence artificielle brouille totalement les cartes. La réalité et la fiction sont tout aussi plausibles pour l'humain ordinaire, ce qui ne cesse de poser des questions d'éthique.
En effet, avec le peu que je comprends au sujet de l'intelligence artificielle, le théâtre et celle-ci jouent sur l'ambiguïté entre illusion et la réalité. Le spectateur doit s'interroger sur ce qu'il voit. Il est vraiment étonnant de voir ces créations faites par des machines alors qu'elles ont tout pour nous convaincre qu'elles sont l'œuvre d'un humain. Il y a tout de foi derrière les créations par intelligence artificielle, un créateur. Tout comme il y a derrière la pièce de théâtre, un auteur, un metteur en scène. Tout comme le magicien de l'illusion comique, c'est lui qui fabrique les simulations à l'aide de données mathématiques. C'est quand même fantastique et inquiétant de savoir que nos perceptions peuvent être influencées, manipulées sans qu'on le sache. Ces créateurs ont encore plus de pouvoir que moi. Ils peuvent outrepasser les limites de la perception de l'illusion par l'humain. C'est une énorme responsabilité, dont on peut craindre des retombées néfastes si ce pouvoir se retrouve entre mauvaises mains.
Il est donc très important de garder un esprit critique devant toute chose. Nous comprenons donc que le théâtre et l'intelligence artificielle jouent tous deux sur les apparences et invitent les gens à remettre en question leur perception.
Oui. Ces deux univers insistent pour nous démontrer que notre monde en est un de représentation, que la vérité n'est pas toujours celle que l'on croit. On peut le constater dans les jeux politiques de votre époque, dans ces mises en scène destinées à obtenir l'assentiment du plus grand nombre, pour le meilleur ou le pire, sans que personne ne puisse dire ce qu'il en est vraiment. Une réalité alternative est rapidement créée par la désinformation, une autre illusion qui, elle, n'a rien de divertissante. Alcandre fabrique une illusion, une réalité alternative pour prix d'amant. Et certains politiciens utilisent dans des stratégies qui influencent la perception, proposant eux aussi une réalité sous un verre déformant. C'est par le jeu des émotions qu'on provoque des réactions, et les politiciens de votre 21e siècle l'ont très bien compris. Ils sont, eux aussi, des acteurs sur la scène politique, dans le théâtre de la vie.
Le faire-semblant du théâtre et du monde politique, et même le monde lui-même, ont bien des choses en commun. Monsieur Pierre Corneille, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir quitté pour un court moment votre quiétude éternelle afin de nous offrir vos réflexions éclairées. Il est certain que l'illusion comique, avec sa thématique d'apparence et de réalité, offre de nombreuses occasions de réflexion sur notre monde actuel. Penser que cette pièce fut créée il y a presque 400 ans nous démontre que les progrès technologiques sont rapides, mais que l'âme humaine demeure la même à travers les époques. Comme vous le disiez à votre arrivée, rien n'a réellement changé. Pierre Corneille, merci et bon retour.
Ce fut un réel plaisir de m'entretenir avec vous. Et je ne sais plus si j'ai envie de repartir. Ah, regardez ça. Un hologramme ferait l'affaire. Mais aussi, je peux très bien me faire passer pour un autre que moi, circuler sur les ondes, m'immiscer dans les réseaux, apparaître en filigrane sur un écran tactile. Mine de rien, illusoire mirage. Ne dites rien, je ne suis déjà plus là. Mais je suis encore ici, ailleurs, avec vous, pour toujours, au-delà. À bientôt.
Merci encore, Pierre Corneille. Chers auditeurs, j'ai une confession à vous faire. En fait, c'est une mise au point plutôt importante. Vous aurez compris que la voix de Pierre Corneille n'est pas vraiment la sienne. Personne n'a encore réussi à ressusciter les morts. En effet, jouant avec le thème de l'illusion, cette voix fut générée par un programme d'intelligence artificielle convertissant un texte écrit en voix humaine dans la langue de notre choix. Il s'agit de ElevenLabs.io, une application aux possibilités fantastiques, mais aussi un peu inquiétantes. J'ai écrit les répliques de Corneille, les ai soumises au programme, qui, à son tour, m'a proposé une lecture à haute voix sous forme de fichier audio à intégrer dans ce balado. C'est une expérience vraiment intéressante. La musique qui nous a accompagnés tout au long de cette rencontre est celle d'Antoine Boesset, musique pour la cour de Louis XIII. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et vous invite à poursuivre votre écoute avec d'autres épisodes du mot à la lettre.